Donc, j'espère que vous me comprenez. Je suis Jimmy Schumann. Je suis comédien retraité et un peu travailleur encore au Syndicat français des artistes interprètes CGT. Nous avons Marie Soubestre, aussi du SFA, une grande chanteuse, et Denis Gravouille, anciennement directeur de photo, et actuellement toujours directeur de photo quand il a un moment, mais il n'en a pas beaucoup en ce moment parce qu'il négocie le régime général de l'assurance chômage pour la Confédération générale du travail et aussi les annexes 8 et 10 du dit régime d'assurance chômage pour la Fédération du spectacle CGT et pour la classe ouvrière du spectacle dans son ensemble. Nous avons eu une négociation, quel jour déjà, vendredi matin, et vous avez peut-être eu le petit bulletin rédigé à chaque fois après la négo qui s'appelle l'écho des négos. Si vous ne l'avez pas eu, Denis va vous donner un petit résumé de ce qui s'est dit lors de cette négociation.
Oui, bonsoir. Deux choses, effectivement. Je rappelle juste que si on est là dans le cadre de la négociation assurance chômage, c'est que, je le dis parce que je vois des nouvelles têtes, donc sans tout refaire le dossier, il faut rappeler que le gouvernement a décidé de rouvrir le dossier assurance chômage et notamment changer la loi cet été, qui lui permet de reconvoquer une négociation alors que normalement les droits à l'assurance chômage couraient jusqu'en 2020, d'exiger 1,3 milliard d'économies par an, donc 3,9 milliards sur 3 ans, sur le dos des chômeurs du régime général. Donc ça, c'est déjà inacceptable. Donc ça, c'est ma casquette confédérale, comme disait Jimmy, où nous menons une négociation. Alors bon, demain, il y a une réunion un peu technique, mais il y a une prochaine réunion sur le sujet le 22 janvier avec un patronat qui a, lui, trouvé le MEDEF en tête, qui, lui, a trouvé plus qu'1,3 milliard d'économies sur le dos des chômeurs. Il a trouvé 1,9 par an. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas, et qui nous appelle à la responsabilité en disant « mais vous pouvez pas faire autrement d'accepter la responsabilité », mais eux, rien pour lutter contre la précarité, puisque, vous le savez, les contrats de plus en plus courts, les temps partiels et autres se développent, mais il n'est pas question qu'ils prennent une mesure, notamment une mesure financière, pour essayer d'enrayer cette progression. Bref, ça, c'est le cas du régime général. Je n'en parle pas seulement parce que, voilà, on est de la CGT et que ça nous intéresse, le sort des chômeurs en général, mais aussi parce que la question qui est posée, c'est que, du coup, le MEDEF, ANCO, enfin, toutes les organisations patronales, les trois organisations patronales interpro, plus trois organisations syndicales interpro, CFDT, CFTC et CGC, ont signé à leur tour une lettre de cadrage qui, elle, réclame, en gros, on va simplifier, parce qu'on a déjà analysé, 200 millions d'euros d'économies sur le dos des intermittents du spectacle, cette fois-ci, avant 2020. Voilà. Donc, la lettre est très floue, parce que, voilà, elle dit des économies sans vraiment les chiffrer. Voilà, et quand c'est flou, il y a un loup, comme disait une femme politique. Voilà, donc on est dans ce cadre-là. Alors une négociation s'est ouverte avec deux séances qui ont eu lieu le 7 et le 11. Le 7, on avait eu nager le soir. On était très contents de savoir qu'il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Donc on avait une moyenne salle à Jeanne Varlin dans laquelle ça débordait. Alors on s'est dit, on va prendre la grande salle ce soir, mais il y a moins de monde. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas. Hein. C'est comme pour remplir une salle de spectacle. On sait jamais quand ça marche ou quand ça marche moins bien. Qu'y a-t-il de nouveau par rapport à la semaine dernière ? Donc la réunion du 11 en particulier. Bon, c'est une négociation un peu particulière parce que c'est une négociation où tout le monde constate qu'on ne peut pas négocier. Je le refais. Nous sommes censés, dans le cadre de la loi de 2015 et les dispositions que nous avions, on va dire gagnées parce que tout ne nous satisfait pas dans cette loi et notamment la lettre de cadrage et autres, mais enfin, on avait gagné le fait qu'on arrête de traiter les intermittents dans le dernier quart d'heure de la négociation du régime général sans nous associer à quoi que ce soit. Et donc d'avoir cette négociation spécifique et donc de nous imposer les économies comme ça sans qu'on ait notre mot à dire. Donc nous avons une négociation, mais qui a été convoquée au départ, on devait même finir le 9 janvier. On nous a dit, bon allez, vous avez jusqu'au 21 janvier. Donc on a fait une séance le 7, le 11, il y a une séance le 17, jeudi prochain, et une dernière séance le 21 janvier. On a déjà fait la moitié de la négociation, et avec une première négociation où le président du comité d'experts, André Goron, qui a remplacé Jean-Paul Guyot pour ceux qui le connaissent, est venu dire, bon bah écoutez, en matière... Alors le comité d'experts, il avait été gagné pour faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement dépendant des chiffres de l'UNEDIC. L'UNEDIC étant une association officiellement paritaire, j'y représente la CGT, mais un petit peu l'opposition, parce que c'est une alternance de présidence MEDEF-CFDT, et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent sur les chiffres qui nous filent, sur les intermittents en particulier. Ils font un peu la même chose sur le régime général, ça nous donne l'occasion de gueuler régulièrement sur leur partialité. Mais donc, sur les intermittents, le comité d'experts permettait de dire « Attendez, on ne va pas chiffrer uniquement se baser sur les données de l'UNEDIC. Il faut qu'il y ait un peu plus de personnalité, donc qui objective un petit peu ce qui se passe. » Et donc, c'est pour, par exemple, sont à nouveau dans le comité d'experts, Mathieu Grégoire, qui a déjà travaillé sur les intermittents. Et toujours Jean-Paul Guyot, mais qui n'est plus président. Et un quatrième, bon. Et donc... Ce président du comité d'experts a commencé par nous dire les économies, on ne pourra pas les chiffrer parce que vérifier l'effet d'un accord, il faut au moins 2 ans plein, il faut au moins qu'on ait la fin de 2018 et ça on l'aura dans 6 mois. Ok, donc 21 janvier, on l'aura peut-être à l'automne, on pourra avoir les données sur 2 ans. Et puis si vous faites des propositions nouvelles, on pourra les expertiser, mais pas dans un délai avant le 21 janvier, quoi. Ça, c'est pas possible. Ce qui est, regarder ce qu'on fait. Si, par exemple, si on veut changer la date anniversaire, le mode de date anniversaire, fixe ou pas fixe, et autres, ce qui est une revendication que nous avons depuis longtemps. Bon, voilà. Ça, les mesures et les effets, ce sera pas possible avant le 21 janvier. Donc, on a dit, alors qu'est-ce qu'on peut changer dans l'accord? On n'a rien à changer. Et nous, on est face à des gens qui veulent tuer les annexes 8 et 10. Donc, on a en gros, 2 revendications qui sont, 1, pérenniser les annexes 8 et 10 et notre régime d'assurance chômage et globalement l'accord de 2016 parce qu'il n'est pas question de se retrouver, par exemple, ça pourrait être une des idées qui a déjà agité le patronat Interpro, c'était de supprimer le bénéfice de l'annexe 8 et de verser tous les techniciens au régime général. Ça a déjà été envisagé. Ou alors de relever les seuils d'ouverture de droit. Nous, on les a ramenés à 107 heures sur 12 mois en 2016. C'est des points essentiels. Dans le même temps, l'accord de 2016 ne satisfait pas tout le monde, loin de là. Et en particulier, il y a eu des points qui ont été mal transposés, selon nous. La façon dont on prend en compte les congés maladie hors affection de longue durée, parce que là, c'est pris en charge, ou hors congés de plus de 3 mois... On a des personnes qui se retrouvent à avoir des droits moins bien calculés qu'avant 2016 parce qu'on nous a dit la date anniversaire ne peut pas bouger, elle ne peut pas être prolongée, vous avez un arrêt d'un mois, vous ne pouvez pas le bouger. Ça, on dit, si, on avait prévu dans l'accord que c'était à l'identique de 2016, mais ils n'ont pas dit qu'on aurait dû l'écrire autrement pour que ce soit à l'identique. Donc ça, on veut que ce soit bien transposé. On a dit qu'on voulait, dans l'accord, que les congés maternité ne soient pas pénalisants, qu'on perde pas un mois, quand on a un mois de congé de maladie, on ne se retrouve pas à perdre un mois d'indemnisation. Et puis, il y a un point qui concerne alors une partie des techniciens et des artistes, qui concerne la façon d'appliquer les franchises, qui sont plus lourdes. On avait accepté qu'on augmente le nombre de jours de franchise. On n'avait pas accepté que ça se fasse de façon aussi importante et que générant beaucoup de trop-perçus. Donc, du coup, notamment dans le champ de nos camarades du cinéma et de l'audiovisuel, les techniciens de cinéma et de l'audiovisuel, il est bien demandé à ce qu'on ait l'application de ce qu'on a signé. Et c'est ce qu'on demandait. Donc, on ne peut pas rouvrir la négociation, mais on veut la pérennité de l'accord et la bonne transposition, la juste transposition de l'accord. Et c'est ce que nous proposons à la négociation. On va bien voir. En face, on a quoi? Bon, d'autres syndicats de salariés. Notamment une fédération CFDT qui a eu beaucoup de mal à faire accepter à sa conf de faire signer l'accord de 2016 et qui prend ses ordres d'en haut. On parle beaucoup du côté stalinien de la CGT, mais je peux vous assurer que c'est pas Martinez qui nous dit ce qu'on va signer dans le champ des annexes 8 et 10, c'est plutôt l'inverse. Donc à la CFDT, c'est pyramidal, mais en commençant par le haut. Donc, voilà, il y a une bataille. Bon, les autres organisations syndicales, FO, ils sont, je ne sais pas s'il y a des camarades d'FO, ils étaient dans l'action avec nous, en tout cas cette année, tout va bien. Et puis, c'est FTC et CGC, on verra bien ce qu'ils suivront, mais bon, ce ne sont pas très représentatifs dans nos secteurs. Donc, c'est pas, leur position se calera sur la nôtre. La CGC, en tout cas, du secteur, oui. Et la CFTC du secteur, on verra bien. Voilà. Et en face, on a, dans cette négociation, la FESAC, qui est notre petit MEDEF à nous. Bon, ça leur ferait pas plaisir de dire ça, parce qu'ils sont pas au MEDEF, les employeurs de notre secteur, qui, la fédération de tous les employeurs, des producteurs de cinéma, d'audiovisuel, de spectacles vivants, de prestataires, etc. Il y en a 32, je crois. Ou enfin une grosse trentaine, donc voilà, qui sont qui représentent tous les employeurs de nos secteurs, voilà, toute la diversité. Donc des gens, bon, qui savent ce que c'est que nos métiers, mais bon, là on parle des droits à l'assurance chômage des gens pour qu'ils embauchent, artistes et techniciens intermittents, sachant qu'il y a évidemment aussi des permanents dans leur structure, dans une proportion plus ou moins importante selon les professions. Donc tout ça pour dire que nous allons avoir plus que deux séances, le 17 et le 21, que pour nous, il est très important de trouver un texte qui dise on n'est pas en mesure de négocier, donc ça, on verra en 2020. Sinon, on ne peut pas faire que d'autres conneries. Nous voulons une pérennité des annexes 8 et 10 et nous voulons une bonne transposition sur plusieurs points. Donc, jeudi, nous allons porter ce mandat et tout faire pour l'obtenir. L'étape d'après, donc peut-être que la négociation se termine, enfin la réunion se terminera peut-être pas le 17 et qu'il y aura peut-être besoin de la réunion du 21 avant de transmettre un éventuel courrier à l'Interpro. Dans tous les cas, bon, nos employeurs, il faut leur mettre un petit coup de pression, c'est pour ça qu'on a mis un appel à la grève, hein, parce que sinon c'était courage fuyons et il n'y a rien à changer dans l'accord de 2016, tout va bien, on les alerte sur un certain nombre de problèmes de transposition, oui mais ils ne veulent pas bouger, bon voilà. Mais derrière, on a d'autres adversaires autrement coriaces, qui sont l'Interpro, qui veulent la disparition, globalement, la majorité d'entre eux veulent la disparition des annexes 8 et 10 depuis un bout de temps, avec le MEDEF qui dit « Non mais vous comprenez, on ne peut pas faire des économies sur le dos des chômeurs sans le faire sur le dos des intermittents. Hein, » voilà, c'est comme ça qu'ils le présentent. Alors on leur dit « Supprimez la fin de la phrase, je l'ai déjà dit ici, on ne peut pas faire d'économies sur le dos des chômeurs, point, comme ça c'est mieux. Voilà. » Donc, là, on ne sait pas... Alors, la négo interpro est très compliquée, on ne sait pas si elle va aboutir, si c'est comme en 2016 où il n'y aura pas d'accord et on se retrouvera directement en face du gouvernement, ou si il va y avoir un accord. C'est une situation inédite parce que la seule fois où il y a un accord en 2016, on s'est retrouvé directement avec le gouvernement qui prenait un décret pour le mettre en œuvre. Là, est-ce que c'est l'interpro qui va l'inclure dans la négo, dans une convention d'assurance chômage? Ça risque d'être compliqué, il faudra se battre, c'est pas terminé le 21. Ou est-ce que c'est le gouvernement qui va modifier cet accord pour intégrer, comme on le souhaite, des modifications? Ou est-ce que c'est le gouvernement directement qui va devoir prendre des trucs? Ou alors même, hypothèse encore plus optimiste, y a plus de lettre de cadrage parce que le mouvement social a tout emporté, la remise en cause des droits à l'assurance chômage, la remise en cause des droits à la retraite, voilà. Ça, ce serait encore mieux. Mais bon, voilà. Pour ça, il va falloir encore être un peu plus nombreux. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, c'est déjà venu dans les AG, sur les questions gilets jaunes ou autres, comment on fait, parce que pour l'instant, il faut bien le dire, ce qui se passe, le risque de baisse de droit à l'assurance chômage en général, hein, au 1er juillet, n'est pas vraiment la revendication prioritaire, même dans toutes celles avec lesquelles on est d'accord, dans les mouvements, le mouvement des gilets jaunes. Et pourtant, il y a moyen d'être d'accord avec un certain nombre de gens. Donc, c'est ça qu'on vous propose de débattre. On a des propositions de rendez-vous. Vous avez vu qu'il y a eu une proposition d'action qu'on avait donnée le jour de la négociation vendredi, bon, qui a abouti à l'occupation brève, mais de l'Opéra Garnier, du balcon de l'Opéra Garnier avec les banderoles que vous avez sans doute vues. Il faut en faire d'autres comme ça. Une délégation a été reçue de ceux qui occupaient au ministère de la Culture dans la foulée, pour redire ce que nous défendions, voilà, celle qui était dans la délégation, parce qu'il n'y avait que des camarades d'eux. Donc, pour donner les détails. Et puis, évidemment, la première des choses, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on soit encore plus nombreux, organiser des tractages. Pôle emploi, on envisage ça, par exemple, pour mercredi matin. Des lieux de travail, faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnes qui ne sont pas au courant, en commençant par là, tous nos collègues, pour essayer d'avancer. Voilà, j'ai fait un peu long, mais j'ai essayé de résumer les derniers épisodes et ceux d'avant pour ceux qui avaient raté un moment du film.
Il y a peut-être des questions ?
Moi, j'avais une question, en fait, c'était pas à Denis, c'était plus par rapport à l'AG. On s'était mis d'accord sur une action qui devait avoir lieu ce samedi. Et en fait, on a eu des gens qui ont donné leur contact pour faire l'action. On n'a eu aucun retour, aucune nouvelle. Est-ce que quelqu'un a des réponses à ça qu'on peut dire ici, enfin, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je voulais juste confirmer que moi, j'ai donné mon mail aussi et apparemment, les gens qui avaient pris ces mails ne sont pas là aujourd'hui et on n'a eu aucune nouvelle, donc c'est bon.
Oui, moi, j'avais pris directement un numéro de téléphone, j'ai envoyé quelques SMS et la réponse que j'ai eue assez succincte, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de lieu qu'ils trouvaient assez sécurisé pour faire l'action. Mais du coup, il n'y a pas eu de nouvelles non plus. C'était un peu sec comme échange. Donc moi j'ai juste une petite question générale aussi. On nous demande 200 millions, si j'ai bien compris, dans la lettre de cadrage du MEDEF. Nous on représente à peu près 1 milliard, c'est ça, de dépenses ? 1 milliard 3. Donc on nous demande genre 15% d'efforts alors que le régime général c'est 10%. C'est juste pour savoir si j'étais juste. Vous parlez des scénarios les plus optimistes ? C'est-à-dire faire péter toutes les lettres du cadrage et tout ça. Est-ce qu'il y a les scénarios les plus pessimistes ? C'est-à-dire par décret, le gouvernement qui a strictement pas envie de négocier et qui voudrait faire péter l'annexe UT10 ?
Alors moi, je voulais savoir ce que la délégation qui a été reçue par le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'ils ont récolté comme information ou comme... voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes présentes.
Oui, excusez-moi. Oui, on était six, ouais. Ah ben, y avait Farida aussi qui était là. On était six à être reçus au ministère de la Culture. Bon, comment dire ? Bon, évidemment, comme il y a la lettre de cadrage du gouvernement, etc., mais ils nous ont rappelé que ni le gouvernement, ni le ministère de la Culture n'étaient en demande de renégociation de nos annexes spécifiques. Donc, c'est pas leur faute, quoi. Parce qu'en fait, ils voulaient pas écrire qu'on ne toucherait pas aux annexes parce qu'ils considéraient qu'on leur... On leur reprochait suffisamment de faire fi de la négociation collective, de marcher sur les partenaires sociaux, etc., etc. Donc, ils pouvaient pas tout écrire. Hein. Donc, ils n'ont pas écrit que ça pouvait pas concerner les annexes 8 et 10. Donc, ça, c'est pas leur faute, mais ils sont pas du tout en demande sur les annexes. Bon, après, ils ont quand même néanmoins compris un certain nombre de choses, notamment parce qu'ils estiment quand même que la loi de 2015 sécurise les annexes, mais on leur a fait remarquer que ça sécurisait le fait d'avoir des annexes, mais pas leur contenu, n'est rien du tout. Donc on est comme l'annexe 4 des intérimaires, elle existe, mais en fait elle n'existe plus puisque ce sont les mêmes règles que celles du régime général. Donc on a finalement pas de sécurisation et pas de garantie avec cette loi. On a pas mal parlé aussi des questions d'emploi également, parce que vous savez que à la négociation de 2016, on nous avait baissé l'addition on devait faire 185 millions d'euros d'économies. En fait, finalement, on nous a demandé que 95 de mémoire, parce qu'il y avait 90 millions qui avaient été consacrés à l'emploi. Bon, il y a eu une création de CDI, mais aussi allongement de la durée des contrats, des mesures aussi pour les gardes d'enfants, etc. Tout ça qui a dû, pour les petites salles aussi, pour les compagnies, les producteurs, tout ça qui jouent dans les petites salles. Bon, c'est des mesures qui ont eu du mal à être mises en place et qui n'ont pas non plus rendu tout à fait leurs effets, de fait. Donc on a aussi discuté de ça, parce qu'il faut forcément, nous, en tout cas la CGT, on lit ces questions, le chômage-emploi. De quoi est-ce qu'on a parlé encore? Enfin, voilà, c'était pas... Enfin, comment dire, ils ont bien compris qu'il y avait en tout cas un enjeu d'ici le 22, que même ils allaient devoir faire pression sur le ministère du Travail, notamment sur ces questions d'accord qui est mal appliqué. Ils ont compris qu'on allait avoir du mal à négocier quoi que ce soit, et qu'il fallait aussi qu'ils nous aident à faire entendre les choses, que ce soit au ministère du Travail, mais également auprès du patronat, puisque forcément, il y a, vous le savez, un couloir direct entre le ministère du Travail, le MEDEF, etc. Donc, ils ont compris qu'il y avait un peu le feu et qu'il fallait qu'en tout cas, le soutien qu'ils pouvaient nous apporter était de cet ordre-là.
Je voudrais dire que il se voulait rassurant, en fait. C'est le ministère de la Culture, hein, c'est pas l'interlocuteur. Ils ont raison, au fond, hein, de nous dire c'est pas ici que ça se passe au ministère du Travail, ça se passe entre les partenaires sociaux. Cela étant, on l'a rappelé, donc on est toujours parti du général, à savoir ça concerne tous les chômeurs, à l'intérieur desquels il y a le régime spécifique. Et on a terminé la réunion. Alors, ils nous disent que... Ils sont allés plus loin quand même, hein, dans la parole, évidemment, en nous disant que, évidemment, que par exemple, l'accord de 2016 était un bon accord, qu'ils étaient tout à fait d'accord sur le fait que demander aux experts de statuer maintenant, c'était trop tôt. Donc ils sont plutôt... on pourrait presque sortir de la réunion en disant qu'ils étaient plutôt tout à fait dans les revendications de la CGT. Hein. Voilà, l'accord est bon, il faut remanier des choses qui déconnent, hein, les choses ont été dites, enfin, je vous le dis, pour que c'est évidemment ça qu'ils ont envie qu'on relaie, parce qu'ils n'ont aucune envie que le mouvement s'élargisse, prenne, et que la voie, que les intermittents ouvrent large la voie aux autres chômeurs, discontinus, etc. Voilà. Donc on a réouvert à la fin de la réunion, leur rappelant quand même que le ministre de la Culture faisait partie du gouvernement qui avait posé cette lettre de cadrage. Donc on était aussi au bon endroit. Même s'il dit qu'il n'a pas la main, il est un des ministres du gouvernement, et que nous étions, en tout cas moi je me suis permise de le dire, que nous étions, qu'il y avait un mouvement social en France, qu'on s'inscrivait également dans ce mouvement social à l'intérieur des injustices sociales et de la précarité et du travail. Voilà. Donc, et qu'on était déterminés à continuer et qu'on n'allait pas s'arrêter. Voilà. Après, le dire et le faire, c'est une autre histoire.
Je vais répondre à la question sur les scénarios entre le pire et le meilleur. Bon, il y a toujours plein de variantes, hein. Mais dans le pire, j'en vois un, c'est que la négociation du régime général qui va se poursuivre le 22, on va y avoir une espèce d'entente entre les signataires habituels, hein, le patronat, MEDEF, CPME, UP, et puis CFDT, CGC, CFTC, ceux qui signent habituellement des conventions assurance chômage, parfois FO, un coup oui, un coup non, ils ont signé la convention 2017, on est les seuls à avoir signé la CGT, et qui va dire, bon, allez, on respecte pas la lettre de cadrage du gouvernement, mais on fait quand même une bonne dose d'économie sur le dos des chômeurs, puis le patronat fait une concession pour la forme en disant, ouais, on va prendre des mesures pour lutter contre les contrats courts. Ça fait trois accords, 2013, 2014 et 2017, qui prennent des mesures qui n'ont absolument rien changé, parce que c'est du pipeau, c'est purement symbolique. La dernière fois, c'était, on va aller négocier dans les branches, c'est-à-dire dans les conventions collectives, les accords pour lutter contre la précarité. Sur les 250, sur les 450 branches, il y en a eu 6 qui ont pris un accord, dont 5 sont des accords pour accroître la précarité. Par exemple, supprimer les délais de carence entre les contrats, les CDD. Donc voilà, donc c'est super. Donc c'était purement du pipeau, on le savait d'avance, et même ceux qui ont signé le savaient d'avance, mais ça permettait de dire « Ah, l'accord 2017 est équilibré, machin... » Voilà, bon, je ne refais pas tous ces négos-là. Donc si ils se mettent d'accord sur, après le 22 jusqu'en février, on va voir s'il y a le délai ou pas, hein, il pourrait y avoir un accord en régime général, là, il sera en position de force par rapport au gouvernement, et dire au gouvernement « Eh ben, les intermittents, il va falloir qu'ils fassent leur part d'économie. Hein. » D'ailleurs, dans leur lettre de cadrage, c'était flou, il faudrait qu'ils en fassent une petite dose. Donc, d'un seul coup, on nous appliquerait, par exemple, une mesure qui est applicable d'ordre général, qui s'applique puisque nous sommes qu'une annexe dans le régime général, donc il y a des règles communes. Et style, alors ce ne sera pas celle-là, parce que ça a été décrié, mais le style de la dégressivité qui s'est appliquée entre 1996 et 2001, où tous les trois mois, les allocations baissaient de 20%. Ça s'est appliqué à nous aussi. Et donc, ils vont pas faire ça. Ils vont faire un autre truc, mais que ce sera même genre. Ça, c'est un des scénarios les pires. Et là, on sera dans la même bataille. Il faut qu'on continue encore dans la même bataille qu'avec tous les chômeurs, parce que ce sera une catastrophe partagée. Voilà, il y a un autre scénario, c'est qu'il n'y ait pas d'accord du côté interpro. Là, il est même possible que l'UNEDIC disparaisse, soit absorbée dans Pôle emploi. Hein, il reste le chapeau UNEDIC depuis que les ACEDIC ont été absorbés dans Pôle emploi, mais que l'UNEDIC disparaisse dans le chapeau de Pôle emploi, et que ce soit directement l'État qui prenne les mesures. C'était un peu le problème d'Emmanuel Macron au départ, il a reculé pour plein de raisons, mais là, il pourrait faire ça. Et puis, l'État dise, bon, bah, on va appliquer une partie de la lettre de cadrage, ou tout ou partie, et puis, bah, pareil, il y a une mesure d'ordre général qui s'applique aussi aux intermittents, donc là, on sera directement en face. Puis il y a des scénarios un peu plus optimistes, c'est qu'on arrive à tirer l'attention sur ce qui se passe sur le dos des économies, sur le dos des chômeurs, et en particulier ce qui veut être répercuté sur les intermittents, et on arrive à faire retirer ces aides de cadrage et à dire non, c'est pas aux chômeurs qu'il faut piquer de l'argent, il faut peut-être rétablir l'ISF ou autre, enfin c'est encore un autre débat qui n'est pas dans le champ de l'assurance chômage, mais qui est un débat très important d'un point de vue citoyen. Voilà. Donc, dans tous les cas, le maximum de bordel et de mobilisation dans nos professions est notre seule garantie d'éviter les scénarios les pires, même s'il y en a plusieurs.
Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions ou commentaires, quand même, on va vous proposer quelque chose, parce qu'il faut poursuivre cette action pour des raisons qui viennent d'être énumérées. Donc, jeudi, il y a la négo jeudi matin au Conseil économique, social et environnemental à la place INA, métro INA, en face du musée Guimet, qui est un très joli musée où il y a un très joli expo en ce moment sur Meiji. Mais on ne propose pas de visiter le musée, non. Malheureusement, c'est vraiment beau. C'est qu'il faudrait accompagner un peu les négociateurs pour montrer que nous sommes là. Il y aura par ailleurs des grèves jeudi. Il y a des je ne sais pas s'il y a des théâtres, mais il y aura en tout cas notamment dans la prestation audiovisuelle, dans l'audiovisuel, il devrait y avoir de vraies grèves jeudi parce qu'il y a des mouvements très forts sur un certain nombre de dispositions des annexes en cours. Donc, on donne rendez-vous à 9h30 devant le CESE, place INA, métro INA, c'est la ligne 9, c'est entre Trocadéro et Alma-Marceau. Et ensuite, il y aura un autre endroit qu'on ne va pas divulguer aujourd'hui, mais c'est déjà un point de rendez-vous pour dire bon courage les gars, quand on entre en négociation et pour montrer au patronat en face et aussi aux autres syndicats qu'il y a du monde et que ce n'est pas que des gens qui négocient, qui baratinent et qu'il y a des gens derrière, quoi. Donc, devant la CESE à 9h30 ce jeudi, le jeudi 17, et puis ça ira ailleurs. Donc, s'il y a du monde, ça serait plutôt pas mal. Et puis, de toute façon, on avait déjà dit qu'il y a un autre AG ici lundi soir pour savoir ce qui s'était dit, sachant que le 21, c'est lundi. Hein? Donc, il y a normalement une négo lundi aussi. Donc, il se peut que entre-temps, il y a d'autres choses annoncées sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait un peu de monde jeudi matin à 9h30 à INA.
Oui, juste pour préciser que 9h30, ça paraît tôt hein, pour les gens du spectacle, pour certains, mais c'est parce que la négociation commence à 10h. Donc il faut que ceux qui rentrent entre 10h moins le quart et 10h voient le monde. Hein. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de se lever tôt. Enfin, tôt, exagérons pas. Hein. Il y a des tas de gens dans le spectacle qui se lèvent très tôt et qui... qui viennent. Voilà. Mais bon, non, c'était une plaisanterie. En tout cas, 9h30, c'est parce qu'elle a rendez-vous à 10h. Et on propose une action courte. Celle de l'Opéra Garnier a bien marché. On a quand même besoin de volontaires parce qu'on était un peu seuls pour certains à peindre la banderole la veille au soir. Mais bon, là, on en a une, on l'a récupérée. On peut la mettre ailleurs. Mais voilà, il y a des ateliers. Et puis d'ici là, il faut prévenir, comme on le dit, il y a des tractages à faire d'ici jeudi. Comme le disait Jimmy, il y aura d'autres rendez-vous pour le 21 et le 22. Le 21, on sera au même endroit à 9h, donc je ne sais pas encore à quelle heure on donnera le rendez-vous. Là, on donnera plutôt rendez-vous en fin de matinée pour donner l'issue des réunions dans le spectacle. Et puis surtout, il y a un rendez-vous le 22 au MEDEF à nouveau sur l'assurance chômage. Et là, peut-être qu'on n'a pas encore donné de rendez-vous, mais en fonction de ce qui va se passer, ce sera aussi peut-être un point de rendez-vous. Et puis, voilà, appuyé par les grèves, c'est encore mieux. Et par des actions visibles, c'est encore mieux. Au passage, on n'a pas dit, puisqu'on est en AG parisienne, mais francilienne, on va dire, mais il y a des camarades dans différentes régions qui ont fait des choses aussi. À Nantes, notamment, ils ont été au MEDEF 44, MEDEF de l'Atlantique. Il y a eu des actions à Tours et autres. Bon, il faut que ça monte là aussi. Mais enfin, il n'y a pas que les Parisiens. Il n'y a pas que des Parisiens qui sont mobilisés.
Il y avait à Montpellier aussi.
Ouais. Non, moi, je voulais aller dans ce sens-là en disant que, en fait, comme là, il y a le mouvement des Gilets jaunes et les sondages où Macron est très bas, tout ça, on a un peu l'impression qu'il est très faible et que... on est un peu protégé par ça, mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul sur le mandat Macron et la vitesse à laquelle il a fait passer énormément de choses dont on voit les répercussions au quotidien sur bon, ça c'était même avant qu'il soit président, sur les prud'hommes, sur les cheminots quand même, c'est une défaite historique, sur, enfin, il y a le chantier des retraites qui est là, et en fait il a beau, enfin, vous avez vu ses vœux au nouvel an, en fait il a beau être en pleine crise, il y a la classe dominante, parce qu'à un moment ça se pose quand même en ces termes, hein, les gros patrons, tout ça, qui ont un agenda et qui ont besoin que le coût du travail baisse en France, et en fait Macron il leur a dit, alors même qu'on était en pleine en plein mouvement, il leur a dit je tiendrai l'agenda, et il a nommé un par un tous les chantiers, l'hôpital, les retraites, il a revendiqué ce qu'il avait fait dans le rail et chez les cheminots, et donc nous on fait partie de cet agenda là nous en particulier, nos annexes, et nous en général les chômeurs, chômeuses. Et donc, en fait, tous les travailleurs, parce que on est potentiellement des chômeurs, et d'autant plus potentiellement des chômeurs, qu'il attaque le droit du travail par les autres angles. Et donc, de ce point de vue-là, c'est hyper important de comprendre qu'il faut qu'on soit dans nos têtes vraiment en période de mobilisation. Parce qu'il y a une énorme urgence. Et ce qui s'est passé en 2003 avec, moi, j'étais évidemment pas intermittente, mais avec la grève à Avignon. Certes, on a perdu en 2003, mais en fait, ça fait quand même trembler nos adversaires en face, parce qu'il y a cette menace qui plane, où quand même, les intermittents, intermittentes, ils ont une force de frappe, ils sont capables de vraiment foutre le bordel dans le pays. Et en fait, à chaque fois, tous les deux ans, quasiment, on arrive à réactiver cette menace. Parce que dès qu'on nous attaque, il y a des actions un peu partout, il y a des AG nombreuses, il y a des choses. Et donc, en fait, on montre qu'en permanence, il vaut mieux pas toucher à nous. Et donc là, c'est le moment de, une fois de plus, continuer à le montrer en se remobilisant. Donc tout l'effort, ça prend du temps, tout l'effort de discuter avec nos collègues, de partager, évidemment, il y a Facebook, mais aussi s'organiser par petits groupes, imprimer un tract, n'importe lequel, ou un appel, et aller le distribuer. Il faut vraiment imaginer qu'on est à nouveau en mouvement. Parce que sinon, le rapport de force, le fait qu'on leur fasse peur en face, ça va petit à petit diminuer. Ils vont passer en force, et même plus en force, sur les choses qu'ils veulent nous imposer.
Par rapport au préavis du 17, parce que là, je suis à Paris exceptionnellement pour bosser, mais je ne sais pas comment ça se passe, mais je me rappelle en 2003, la grève avait pris, parce qu'aussi, on avait un rapport très particulier avec par exemple en théâtre, avec les grosses maisons, on va dire, et on faisait un boulot par rapport à l'intérieur des grosses maisons, et voilà. Nous, par exemple, là, on va travailler cette semaine à Paris. Si on discute au sein de l'équipe, on a besoin de savoir si vous avez des retours déjà, à savoir est-ce que ça bouge ou est-ce que ça bouge, parce que c'est pas une toute petite compagnie qui va se mettre toute seule si personne ne bouge au-dessus, quoi. Donc est-ce qu'il y a des... Voilà, c'est juste.
sais que tu en parles de Pierre, si je peux me permettre de répondre du côté spectacle vivant avant que tu parles du côté audiovisuel cinéma. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des camarades du SAMTAC qui sont là pour en parler, parce que évidemment, ça fait le tour des maisons, notamment soumises à préavis des théâtres publics. Est-ce que je vois pas Rémi ou Nathalie? Ah si, Rémi, t'es là, voilà. Tiens, peut-être on va laisser Rémi répondre sur la question tout de suite. Ouais, je t'ai frustré un peu, mais tu sais répondre dans le champ audiovisuel cinéma, donc là-bas. Voilà.
Alors, dans les grandes maisons, il y a eu, on l'a évoqué à la dernière Assemblée Générale, trois régisseurs au Théâtre National de l'Odéon qui se sont mis en grève il y a 15 jours de cela, lors d'un précédent préavis de grève. Les équipes artistiques et techniques intermittentes n'étaient pas grévistes ce jour-là. Aujourd'hui, dans les théâtres nationaux, ça manque clairement d'assemblée générale, de discussion entre salariés pour savoir comment s'inscrire dans ce mouvement. La difficulté des compagnies de passage que tu évoques en arrivant dans ces maisons, je pense que c'est une source une vraie ressource justement pour ouvrir ce débat avec les salariés permanents dans ces équipes. Les positionnements ne sont pas uniformes, ce qui se passe au théâtre, ce qui se passe à Chaillot ou ce qui se passe à l'Opéra de Paris, et les discussions qu'il peut y avoir ne sont pas identiques, ne sont pas portées par de la même façon. Donc, en tout cas, sur le mouvement du 17, là, nous n'avons pas aujourd'hui de remontée d'Assemblée générale ayant acté le fait qu'il soit gréviste. Mais on y travaille.
Eh ben, dans l'audiovisuel et dans le cinéma, on y travaille aussi. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu passer une pétition qui a été lancée dimanche après-midi, donc ça fait vraiment 36 heures là, qui a réuni un peu plus de 5200 signatures pour le moment, et qui réunit 18 associations de professionnels du cinéma, c'est-à-dire les assistants réalisateurs, les décorateurs, la partie du son, les mixeurs, les bruiteurs, les steadicameurs, les cadreurs, les scripts, la déco. Enfin, là, c'est vraiment en train de prendre, en tout cas, ça passe par toutes les associations professionnelles qui se font le relais actuellement de cette négociation, et en tout cas de ce qu'on peut en obtenir, ou ce qu'on essaye d'en obtenir. Et dans l'audiovisuel, il y a aussi l'UNDIA qui a co-signé cette pétition-là et qui se fait le relais de ça aussi. Et bien sûr, il y a tous les relais dans nos cercles rapprochés. Et comme ça y est, là, ça, c'est en tout cas, moi, j'y vois un bon signe. J'ai récupéré un mail que j'avais envoyé et que j'avais fait circuler, et je l'ai eu par d'autres canaux. Donc, ça veut dire que le mail, que ça commence à bien circuler. Et dans ce mail-là, il y a vraiment un appel des producteurs, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de vraiment s'occuper du planning des techniciens sur une production ou sur un tournage, qui font passer à toute leur liste de techniciens et qui disent le 17, il faut être là. Et clairement, dans le mail, alors ça, c'est pas moi qui l'écris, mais l'objectif, c'est qu'il y ait 3000 techniciens de l'audiovisuel et du cinéma, c'est clairement dit dans les boucles qui circulent. Donc il y a vraiment une envie de faire du 17 une très très grosse journée d'action dans l'audiovisuel et dans le cinéma, et tout en n'oubliant pas bien sûr le 21 et le 22 qui seront deux autres journées très importantes dans les prochaines semaines pour les annexes 8 et 10. Voilà. Il est sur le site du syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel du cinéma, donc SPIAC-CGT, change.org. Et c'est une pétition qui est sur change.org. Donc si vous tapez intermittent, sur franchise, enfin voilà. C'est un appel qui a été lancé dimanche après-midi. Donc vous ne l'avez peut-être pas vu encore passer.
Oui, alors moi j'ai une petite question par rapport au 17. Est-ce que on peut être utile si on ne vient qu'une demi-heure et que c'est quelque chose de court? Si on n'a qu'une demi-heure, est-ce que ça vaut le coup de traverser Paris et venir?
Si c'est la première demi-heure, oui.
Oui, c'est
ça. Parce que c'est au moment où toutes les délégations vont rentrer. Donc oui, c'est utile.
D'accord. Ok. Et juste aussi, j'en profite, ce serait bien qu'à chaque négo, il y ait des actions, en effet, qu'on arrive à, peut-être samedi prochain, voir si on arrive à remettre en relancer cette action qu'on avait envie de faire et qui pourrait être très chouette. Donc là, mais je ne sais pas à qui, vers qui me tourner. Et à qui envoyer un mail pour ça, mais je pense que ce serait très bien. Et juste aussi, je voulais dire un petit mot par rapport aux manifs des samedis, parce que moi, j'ai essayé de faire une action en particulier qui n'a pas pris, parce que les musiciens étaient vraiment avaient peur de venir à la manifestation avec leurs instruments. Et donc, au final, il y avait vraiment cette peur-là, et donc cette action ne s'est pas faite. Et je comprends très bien, mais je voulais quand même dire, j'ai fait quelques samedis, et je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui venaient les samedis, mais certes, la répression policière est très violente, ça, comme c'est du jamais vu, et c'est vrai. Maintenant, on joue au chat et à la souris, il y a une énorme solidarité dans les rues, et on tourne beaucoup. Et en fait, les actions qui se passent sont très festives. En gros, là, ce samedi, moi, je suis pas arrivée au début, mais apparemment, il y avait quand même un beau cortège qui est parti de Bercy et qui a très bien avancé. Et on s'est fait scinder à étoile. Et donc, la technique, voilà, c'est de casser la manifestation. Mais après, on tourne. Alors, avant, ça dure. Hein, mais on arrive à se retrouver. Et finalement, il y a une visibilité, je pense, de la population. Et par exemple, à la fin, on s'est retrouvés finalement plein de petits groupes. On s'est retrouvés à Saint-Lazare et on a tourné en rond, en chantant, de façon festive. Et voilà. Et ça a duré mine de rien plus d'une demi-heure avant que les CRS viennent. Et voilà. Et après, on repart. Et puis, etc., etc. Et donc, c'est tout ça pour dire que ça vaut vraiment le coup de venir. Je pense que moi, j'ai un gilet jaune avec des mots sur l'assurance chômage. Inscrit dessus, ça permet aussi de discuter avec les gens qui sont là. Et voilà, je pense que nous aussi, on a des choses à dire et on a des choses à entendre. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'y aller. Voilà, c'était.
Je vais te dire un petit mot. La titre personnel hein, sur les infos, mais sur samedi, moi j'y suis allé aussi au rendez-vous CGT qui était à Hôtel de Ville, et je dois dire que même l'Union départementale de Paris avait oublié dans sa liste de courses, où je suis d'accord sur tout, avait oublié de remettre en cause les droits à l'assurance, les économies sur le dos des chômeurs. Donc on a aussi notre boulot à faire, y compris dans la CGT, à faire comprendre que j'ai vu aussi un appel aujourd'hui, un camarade nous a fait passer un appel. CGT samedi à Marseille, tiens, ils ont encore oublié l'assurance chômage. C'est un truc, ça concerne une baisse de droits de 10, 20, 30%, parce que le régime général, comme il cible spécifiquement les travailleurs précaires qui pourraient voir perdre 100 euros ou 200 euros les assistantes maternelles ou autres, ça peut être des pertes de droits considérables au régime général, et y compris nos propres camarades oublient les communiqués qu'on écrit toutes les semaines et autres sur le sujet. Donc c'est très bien d'avoir sur son gilet jaune ou sur son gilet rouge ou sur son gilet ou dans son tract ou n'importe où un truc pour dire attention, au 1er juillet ils sont en train de taper, et Macron a réaffirmé qu'il fallait poursuivre les réformes. C'est pour ça aussi qu'on vous a distribué le petit papier à l'entrée. C'est son annonce de grand débat, c'est venez dans mon grand débat pour me dire comment je vais faire pour appliquer ma politique, comment on va supprimer les services publics, lesquels faut cibler, hein, c'est marqué pour ceux qui ont la curiosité de lire la lettre, lesquels il faut supprimer, et puis la protection sociale, c'est partie du débat sur la fiscalité. C'est déjà rien que ça, c'est un choix. Ça veut dire que quand on parle de protection sociale, on ne parle pas de cotisation de protection sociale pour la retraite. Non, on parle d'un espèce de minimum social qui serait financé par l'impôt et que, évidemment, on met au plus bas comme un filet de sécurité. C'est la théorie des libéraux. Mais par contre, l'argent, il faut le réinjecter dans le travail et autres. Il faut mettre ces salauds de chômeurs, de feignants au boulot, les obliger à accepter n'importe quel petit boulot. Parce que comme ça, on fera baisser les chiffres du chômage, mais on fera augmenter le nombre de travailleurs pauvres, ça c'est sûr. Hein, la proportion en Allemagne, c'est 5 fois plus de travailleurs pauvres qu'en France, par exemple. Donc ça, c'est tous ces débats-là qu'il faut avoir. Et effectivement, dans le débat contre trop de taxes ou d'impôts, y a un débat à avoir, quoi. Une cotisation sociale, c'est du salaire socialisé. C'est pas un impôt. C'est justement ça qu'on essaye de défendre.
Alors, du coup, j'avais demandé la parole. Je vais la prendre. J'ai entendu, par exemple, que le secteur du cinéma est mobilisé, en tout cas, essaie. Moi, je pense, enfin, en tout cas, j'ai une demande à faire, je radote un petit peu, mais tout à l'heure, j'entendais que France Télévisions, là, il y a un plan de 1000 départs volontaires, là, tu as entendu, France Télévisions, à Radio France, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que là, pour le 17, Radio France, il y a un certain nombre de gens hein, qui sont intermittents du spectacle, de l'audiovisuel. Il n'y a pas d'AG appelé. Est-ce qu'on peut réfléchir? Moi, je me souviens qu'en 2003, avec toi d'ailleurs, Denis, on avait fait des AG sur le parvis de France Télévisions. On avait essayé d'interpeller. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est assez seul. Là, moi, je n'ai pas reçu, par exemple... c'est moi qui donne des infos, mais j'ai rien reçu sur le 17. Il n'y a pas un appel franc. Alors en ce moment, ça je vous en parle, c'est parce qu'en ce moment il y a des élections à la radio, mais je vous assure que... Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut essayer d'organiser quelque chose pour mobiliser France Télévisions et Radio France, et en tout cas ceux qui sont concernés déjà, et plus largement pour tous les chômeurs?
C'est après. Oui, bonsoir. Trois petites choses, juste. Les copains, vous savez que notre AG ce soir, elle n'est même pas sur la page de Démosphère. Elle n'est pas. Il faut qu'on mette systématiquement les infos. Déjà, que dans notre secteur, on ne se bouge pas beaucoup quand ce n'est pas pour notre gueule directement. C'est là, c'est pour notre gueule totale, donc au moins que là on se bouge un peu, voilà. L'autre chose, comme tu disais un peu, c'est quoi la lettre morte de notre cher dictateur en costard? C'est qui on tue d'abord? Et comme par hasard, il nous a refait rentrer son dada, le dada de tous ces gens-là, du MEDEF, des fachos, de cette droite pourrie, de ce monde ultralibéral, l'immigration, les réfugiés qui sont en train de crever par 2000. On a coupé l'eau aujourd'hui à 2000 personnes qui vivent comme des cafards sur les trottoirs de Saint-Denis et de la périphérie nord-est de Paris. Voilà. Mais ce sont eux les responsables de tous les malheurs de la Terre. Donc ça va arriver à notre gueule tôt ou tard, quoi. Et on n'est pas seul, hein, comme tu disais, il y a un mouvement partout. Moi, mon seul souhait serait qu'enfin on se bouge pour une vraie grève générale, quoi. Mais les dockers du Havre sont en grève, les dockers de Nantes sont en grève, et tant qu'on touche pas à leur pognon, ils vont continuer à nous arracher les yeux en nous traitant de délinquants violents. Juste vous rappeler le nombre d'arrestations, le nombre de condamnations. Aujourd'hui, ils arrêtent des gens juste parce qu'ils les voient un peu isolés dans le bordel des gaz lacrymogènes. Il y a une gamine de 20 ans qui a été mise en garde 48 heures, comparution immédiate. Et les avocats disent il faut surtout pas demander un report parce que vous passerez les quelques mois entre la garde à vue et la convocation en centre de rétention. Comment on les appelle là, les prisons temporaires, whatever, Bois d'Arcy par exemple, tu vois. Donc les prisons commencent à augmenter, on comprend pourquoi l'empereur Machin Ier a, depuis le début de sa campagne, parlé de construire des milliers de places de prison. C'est pas par respect des gens qui sont mis en tôle pour qu'ils puissent vivre dans un minimum de décence humaine. Non, c'est pour nous foutre tous là-dedans. Donc, sincèrement, soit on se bouge le cul, les camarades, dans le mouvement social du pays, parce qu'on en fait partie, soit on va crever avec tout le monde, voilà. Et en prison, on nous laisse même pas chanter parce qu'ils vous cognent dessus. Voilà.
Oui, alors c'était pour revenir sur le fait qu'il est, je pense, essentiel d'arriver à avoir cette discussion avec l'ensemble du mouvement et en tout cas avec les gilets jaunes aussi différents qu'ils sont, parce que voilà, c'est assez, c'est pas très homogène. Mais sur la question justement de l'assurance chômage et d'avoir ces questions et de combattre ces idées reçues qu'effectivement quand on travaille pas c'est qu'on est un fainéant, et même parmi beaucoup de gilets jaunes je pense la valeur travail on l'a quand même dans la tête, j'ai l'impression en France malheureusement c'est un truc qui a impacté les gens et qui est là, et donc il faut parler de ça, il faut en discuter et j'ai l'impression qu'il y a quand même ces derniers temps des peut-être des lieux et des moments où ces discussions peuvent peut-être se faire. Il y a eu des AG ou les AG des gilets jaunes qui sont faits avec des syndicalistes de la CGT, il me semble, je ne sais plus où, c'était dans le sud, non, il n'y a pas eu de... Oui, dans beaucoup d'endroits, en fait. Donc il y a vraiment des convergences qui se font, et d'autres super encourageantes, et même des convergences par les gilets jaunes qui avaient fait une AG, voilà, c'est sur une autre question, mais une AG dans un squat de migrants, c'est ça aussi. Donc qui répond aussi à nos interrogations, à nos inquiétudes sur est-ce que c'est un mouvement qui, sur ces questions-là, est très à droite. Ou est-ce qu'il est à droite, mais pas seulement, il est aussi très à droite ou peut-être très à gauche. Et donc pour avoir ces discussions-là, j'ai vu qu'il y a une AG de Gilets jaunes de Commercy qui appelle, courant du mois de janvier, à faire une AG, des AG, le 26, c'est une date qui est fixée, même une commune des communes. Donc on met déjà l'utilisation de ce terme, il est déjà assez encourageant, je pense, d'un point de vue politiquement, sur ces bases-là. Et donc est-ce que ce serait peut-être intéressant que nous, on discute au CGT spectacle et même le CGT précaire, enfin, chaise du chômage, et même plus largement. Est-ce que nous, on n'a pas quelque chose peut-être à s'y rendre, à porter notre discours là-dessus, alerter sur la question des négociations de l'assurance chômage. Voilà.
Évidemment, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur les questions d'immigration. Je suis d'accord avec toi que quand on lit cette lettre, il remet 100 balles dans la machine de « c'est l'immigration le problème, donc faut débattre de l'immigration ». Bon, voilà, c'est absolument scandaleux. Et ça, ça se fait au moment où, justement, dans les Gilets jaunes, on entend beaucoup moins les des propos, des actes homophobes ou racistes, comme il y en a eu, même émanant d'une minorité. Mais ça a été quand même... on a pu discuter avec un certain nombre de gens qui ne sont pas du tout sur ces positions-là. L'opéra, quand on était nassé à l'opéra le 15 décembre, je discutais avec plusieurs personnes. Alors, il y avait des fachos, il y en avait quelques-uns avec leur banderole, et puis il y en avait qui avaient exclu de leur groupe tous ceux qui parlaient de virer les immigrés, de remettre en cause les droits, on avait eu le débat à la colline, de renvoyer dans leur pays les déboutés du droit d'asile, quand on explique comment ça se passe le droit d'asile, l'attribution du droit d'asile. Donc il y a des choses qui évoluent. Mais, effectivement, il y a une question sur... prendre en compte l'assurance chômage et quand tu dis valeur travail, les chômeurs demandent à travailler. Les chômeurs sont des travailleurs qui sont privés d'emploi, qui sont privés d'un droit constitutionnel d'ailleurs qui normalement devrait leur attribuer, qui est un droit au travail. Hein, c'est l'article 23 de la Déclaration des droits de l'homme au passage. Et donc évidemment qu'ils travaillent. Qu'il y a dans les chômeurs et ceux qui sont visés par les baisses de droits, ce sont justement les travailleurs précaires. Ils sont pas en train de viser les droits des chômeurs, ils sont en train de faire en sorte que on ait encore plus l'obligation d'accepter les sales petits boulots. C'est ça qui est en train de se passer. C'est la continuation des ordonnances de la loi travail, c'est le seul baisser les chiffres du chômage, c'est à n'importe quel prix, en obligeant les gens à aller faire quelques heures par-ci par-là, dans n'importe quel cas, et puis un peu comme, et même carrément comme auto-entrepreneur et autres. C'est ça la finalité de la réforme de l'assurance chômage. Ça s'inscrit complètement là-dedans. Donc, mais ça, il faut l'expliquer. Hein, c'est clairement former une armée de réserve, parce que les Allemands, ils ont leur mini-job, les Britanniques, ils ont leur contrat zéro heure. Il faut l'armée de réserve de précaires, et ça, il n'est pas question de le remettre en cause pour le patronat et le gouvernement. Il faut une armée de réserve de précaires qui soit en mesure et qui ait le moins de droits possible, parce qu'ils seront encore plus tenus d'accepter les boulots dans des conditions dégradées. Donc effectivement, il y a des choses à aller dire. Bon, je vous cache pas qu'on a eu beaucoup de débats aujourd'hui, notamment dans la commission exécutive de la CGT Spectacle, savoir ce qu'on faisait. C'est pour ça que même y compris les Gilets jaunes ne veulent pas être récupérés par la CGT. Donc on discute, on a des lieux de débat chaque fois que c'est possible, à différents endroits. Et je pense que du côté de Commercy, où on a vu des interpellations. Si, c'est bon. Ouais, ça va, il y a une petite interruption. L'AG de Toulouse qui appelle aussi à la grève, à organiser une grève interprofessionnelle. La question, c'est que grève générale, évidemment, qu'on serait d'accord que les grèves soient généralisées. On a déjà eu le débat aussi et qu'on continue. Mais là, il y a un appel à la grève de notre part le 17, le 21 et le 22. Il faut déjà faire en sorte qu'il y ait des gens en grève pour qu'on soit crédible pour généraliser la grève, quoi, et demander à ce qu'elle le soit. Et ça, c'est déjà un boulot. Il faut y aller. Pour l'instant, on peut pas dire... compris, le débat se pose sur le mouvement des Gilets jaunes, fait du bruit, met en difficulté le gouvernement, bon, qui continue sa politique, on l'a tous constaté, et notre salaire de Macron le continue de dérouler son truc, mais il met en difficulté, ça c'est sûr, avec des mouvements le samedi où il n'y a pas de gens en grève. Donc là, il y a du boulot. Il nous semble, nous, qu'il faut compléter et qu'il faut faire en sorte que la grève se déclenche vraiment et qu'elle se déclenche et qu'on le fasse chacun qu'on le déclenche profession par profession. Ça veut dire aller voir un certain nombre de personnes. J'ai une question auquel j'ai pas répondu. Oui, pardon, Farida sur Radio France, France Télé. Sur France Télé, il se trouve qu'il y a un mouvement de grève le 17 parce que aussi à l'interne, le plan social qui est en train d'arriver, enfin c'est pas un plan social, c'est un plan de rupture conventionnelle collective, un truc prévu par les ordonnances, est en train d'annoncer des suppressions de postes et des réorganisations de services et autres, l'automatisation et donc voilà. Donc on a proposé, alors c'est à l'appel de plusieurs syndicats, donc ça sera toujours compliqué de les faire venir, mais en tout cas la CGT de France Télévisions va proposer de venir le 17 raconter ce qui se passe à France Télévisions en particulier, et donc on en parlait cet après-midi avec les camarades de France Télévisions. Radio France, j'ai pas de nouvelles, effectivement, il y a des vraies questions, donc on va les relancer, mais il y a des vraies questions sur ce qui se passe à Radio France. Alors c'est vrai que quand on a quelques militants qui sont tous pris par l'organisation des élections qui sont importantes et autres, parce que derrière, en fonction de ça, c'est la capacité à avoir des accords plus ou moins bons à être signés, c'est une vraie question. Et puis bon, voilà, t'as fait partie de la grève à Radio France historique de presque un mois. C'est pas toujours simple, mais bon, voilà, on va revoir avec eux dès demain. On espérait que les voir aujourd'hui, on ça ne l'a pas fait, mais j'ai pas de réponse à ta question, mais c'est pas du tout abandonné.
Cela dit, elle dit, Farida, il y a aussi des élections qui arrivent à Radio France. Je sais pas si ici il y a des gens qui ont suffisamment de cachet pour voter. Il y a 27 artistes comédiens qui peuvent voter lors des élections à Radio France. Il y a une CGT avec un comédien. Alors, si vous avez fait partie des 27, votez CGT.
Il y a qui veut le micro là-bas. Et ensuite, je me suis inscrite et puis je continue à prendre la liste.
Oui, plusieurs choses. Premièrement, donc effectivement, la G de ce soir n'était pas sur Démosphère, mais celle des Gilets jaunes dans les différents arrondissements de Paris, elles y sont. Donc n'hésitez pas à y aller, justement, pour les sensibiliser à la question de l'assurance chômage. Et aussi, justement, par rapport à la convergence avec les syndicats. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans d'autres villes. Je sais qu'à Lille, à Marseille, à Lyon, ailleurs, il y a déjà eu un certain nombre de rencontres qui ont lieu. Il y a eu un très bon article là-dessus dans le journal Rapport de Force, si vous voulez aller voir. Et du coup, justement, je pense que ça pourrait être très intéressant aussi d'aller dans les AG de Gilets jaunes pour les pousser à discuter avec les syndicats et puis aller aussi du côté de nos unions locales pour les pousser à discuter avec les Gilets jaunes. Enfin, je pense qu'il y a des rencontres à organiser à ce niveau-là. La question aussi que je me posais par rapport au grand débat, il a été dénoncé le fait que voilà, ça allait juste être un cadre dans lequel on allait discuter avec avec ceux qui nous gouvernent de comment on va se faire saigner. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives, des actions qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là? Moi, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait peut-être pas mal de se préparer à y aller dans ces débats, soit pour les perturber, soit pour, soit pour poser les questions qui dérangent. Voilà. Donc, est-ce qu'on laisse la responsabilité à chacun de le faire ou est-ce qu'on essaye d'organiser ça collectivement? Et puis, une dernière question que je me posais, c'était plus, moi, par rapport à mon statut de précaire, que il semblerait qu'on soit dans une AG intermittent et précaire. Sur les différentes attaques du gouvernement à nos droits, hein, on a dit qu'il y avait tout un agenda. Moi, je m'interroge sur l'agenda en ce qui concerne les minima sociaux. Je suppose qu'il va y avoir des attaques sur le RSA, sur la CMU, sur les tarifs... Sur les tarifs de première nécessité, sur ce genre de choses. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a de l'information qui est produite à ce niveau-là et s'il y a des choses qui s'organisent aussi pour aller lutter contre ça. Moi, je rêve d'assemblée d'usagers. Ce serait super. Tous ceux qui vont arriver devant les CAF et proposer aux gens de faire des assemblées d'usagers. Quoi. Ça, je ne sais même pas si ça a déjà existé. Mais... Voilà.
Moi, je veux juste te dire que la réponse que j'ai eue tout à l'heure, elle me convient pas vraiment. Premièrement, parce que quand tu es arrivé et que j'ai voulu trouver, que je suis allée sur le site de la CGT pour trouver la réunion de ce soir, j'ai pas trouvé. Donc après, c'est difficile quand même d'aller mobiliser les copains parisiens qui sont pas au courant, d'arriver de province et d'être obligé d'aller mobiliser aussi dans les théâtres où on travaille et de se dire on a 3 dates et c'est nous qui allons faire grève. Et là j'entends qu'effectivement dans les endroits, dans les théâtres où il y a des permanents, j'imagine CGT, ben on n'a pas de retour. Donc ma question elle est basique, quoi. Pourquoi on pouvait pas trouver l'info ce soir et qu'est-ce qu'on fait pour si effectivement il y a un préavis pour le 17? Avant le 17, comment on fait, quoi? C'est ça qui me semble important. Bien sûr que d'accompagner le rendez-vous pour la négo, l'action. Mais en fait, moi, j'ai une question. C'est est-ce qu'on fait des actions? Est-ce qu'on veut faire la grève? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce qu'on peut pas tout mener. Visiblement, il y a très peu de monde ce soir. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on n'arrête pas d'entendre de dire que c'est urgent. Qu'est-ce qu'on fait si on se bat pour le 17? C'est ce soir qu'il faut décider comment on fait. On est à Paris, quoi. Comment on fait? Les représentants de quel théâtre ici? J'ai une question basique. Je comprends pas.
Alors je me suis inscrite. Il y a d'autres camarades qui pourront peut-être te répondre plus précisément. Oui, t'as raison. En fait, tout ce que tu nommes, c'est effectivement des problèmes. Et donc oui. Je suis d'accord avec toi. Après, sur l'histoire de la fameuse grève générale, on a toujours le débat. Moi, je trouve que cette tactique-là de dire on va appeler à une journée, on va voir, une deuxième journée, on va voir, une troisième, et puis si à chaque journée il y a de plus en plus de monde, là peut-être on pourra dire là on peut généraliser. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, ça fait 20 ans qu'on n'est jamais en mesure de généraliser, donc il semblerait que ce soit pas la bonne méthode. Donc le bouton pour appuyer ne me semble pas non plus la bonne méthode, mais par exemple en Guadeloupe, ils avaient fait une grève générale en disant il y aura grève générale dans un mois, mais pendant un mois on en parle en permanence, on construit ça, enfin ce serait une alternative entre le bouton et appeler date par date en voyant ce qui se passe. Je dis ça, ça peut être autre chose, mais moi je pense que à l'inverse, en fait, quand on est dans une toute petite boîte ou dans une toute petite compagnie, c'est beaucoup plus facile de se mettre en grève pour en répondant à un appel général où on sait que même si on n'est pas nombreux là où on est, mais ça correspond à une dynamique générale et nationale avec une volonté politique. Alors que si on se dit, il y a une date, on va voir qui l'a fait, et puis une fois qu'on aura vu qui l'a fait, peut-être qu'on aura des perspectives pour qu'elle mène quelque part, je ne sais pas. Voilà, donc c'est. Mais bon, on a le débat à chaque AG, voilà. Sur les gilets jaunes, moi, ça me paraît. Effectivement, important d'y aller. Et moi, je trouve qu'il faut faire attention de ne pas utiliser le risque de récupération comme excuse pour pas tenter des choses, et notamment Commercy. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est évidemment pas ce soir, mais je me dis que la semaine prochaine, si on est assez nombreux, ça aurait du sens de dire qu'on envoie quelqu'un, 2 personnes, j'en sais rien, pas forcément pour avec droit de vote, je sais pas comment ça se passe, pour dire, l'AG d'intermittente parisienne, francilienne, va voir les gilets jaunes de Commercy, comme ça on pourrait porter cette parole, rencontrer des gens, revenir raconter, bon bah c'est que des fachos, on peut rien faire avec eux, ou alors on a eu des discussions intéressantes, enfin, et puis commencer ce lien là, ou alors on s'est fait jeter parce qu'on venait d'une AG qui avait été appelée par la CGT, bon, enfin on verra, on en tirera des bilans, mais je trouve que ce serait important d'essayer de faire des choses concrètes pour ça. Et évidemment, il y a ce que tu rappelais, toutes les AG locales et tout ça, qui elles sont, effectivement sont sur Démosphère, il y en a de plus en plus dans Paris et en Ile-de-France, et ça d'y aller, mais ça c'est évidemment individuel. Et sur le grand débat, j'entends ce que tu dis, je dis pas que c'est ça que tu dis, hein. Ok, pour évidemment y aller au sens de bordéliser machin, mais je trouve qu'il faut se féliciter de la position de la CGT qui a décidé de pas aller à l'inauguration de ce, enfin voilà, au premier de ces grands débats. Moi je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, j'étais très très fière d'être à la CGT, et il faut qu'on continue en fait à dire que ce truc là on n'y mettra pas un pied, et ça je trouve que c'est, enfin ça me semble très important.
En tout cas, je pense que c'est personnellement, si les gens veulent aller au grand débat dans des régions où ça a l'air intéressant, où ça a l'air de prendre un peu, parce qu'à Paris, ça va être n'importe quoi, mais dans des petits bleds, si vraiment on a envie d'y aller, on sait très bien les positions qu'il faut défendre. Il y en a déjà une partie qui sont listées sur le petit papier qu'on a filé ce soir. Praline, on n'est peut-être pas sur Démosphère, je ne sais pas comment on se met sur Démosphère, mais par contre, sur le site de ton syndicat, c'était l'AG de ce soir. Donc, je vous invite tous à regarder sfa-cgt.fr.
Il y a Philippe puis Christophe qui sont inscrits. Il y a Philippe puis Christophe.
Tous les événements politiques, les rassemblements, les syndicats, tous les rassemblements de discussion sur l'affaire Ben Barka ce soir, à la colonie, systématiquement, c'est sur Démosphère. Il faut qu'on prenne l'habitude de mettre ça systématiquement. Moi, je n'avais pas reçu l'info directement pour X raisons de panne d'ordinateur. Mon réflexe pour savoir où c'est ce soir, est-ce que c'est dans un théâtre, est-ce que c'est à la Bourse du Travail, sur Démosphère. Donc, il faut y aller.
Philippe, c'est à Philippe. La parole est à Philippe. Philippe.
Bonsoir, je suis Philippe Gauthier du SNAM, le syndicat des musiciens de la CGT. Comme Denis l'a dit tout à l'heure, on va essayer de se battre dans la négo jeudi matin. Il faut qu'il y ait plein de monde. On sait aussi, il y a pas mal de gens qui sont jeunes dans cette salle et puis d'autres qui le sont moins. Ceux qui ont déjà vécu les luttes du passé le savent. Les luttes d'intermittents, ça dure toujours longtemps. Ce qui est formidable, c'est que les formes de lutte se régénèrent au fur et à mesure. On invente au fur et à mesure des façons de faire le rapport de force et de gagner. C'est pour ça que c'est tant mieux qu'il y a plein de jeunes gens aussi, parce que c'est eux qui trouveront. Le truc qu'il faut se dire, c'est que il faut s'y mettre, quoi. On est quand même dans une très mauvaise passe. Il y a les deux lettres de cadrage, il y a ce gouvernement, il y a vraiment une certaine confusion politique du fait du mouvement des Gilets jaunes. Il y a tout pour qu'on se fasse coincer, surtout si on ne se mobilise pas. Et je pense que c'est à partir de maintenant et tout le temps, c'est ça qu'il faut se dire. Alors pas tout le temps en grève, tout le monde à partir de maintenant, parce qu'on sait que c'est pas possible tout le temps, tout le monde en grève à partir de maintenant, et peut-être pour plusieurs mois. Mais en tout cas, tout le monde sur le coup, vraiment, on est ici quelques-uns à avoir commencé à faire les luttes d'intermittents avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont quand même plus faciles aujourd'hui, mais même s'il y a les réseaux sociaux, c'est aussi dans les groupes dans lesquels on joue, les gens avec qui on travaille, à qui il faut dire « Eh, tu viens, t'en as parlé autour de toi, et ton copain machin, est-ce qu'il vient ?» On lui passe un coup de fil. C'est comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on se nourrit. Nous, on a un point collectif demain matin avec les camarades des différentes villes pour voir comment la mobilisation s'organise et comment on s'y prend. Il faut y aller. L'agenda risque d'être long. Quand bien même dans la négociation qui a lieu jeudi, on obtiendrait tout ce qu'on veut, c'est-à-dire refus de négocier dans le cadre de la lettre de cadrage et sans le comité d'experts. Et puis, pression sur le ministère du Travail et sur l'UNEDIC pour avoir une transposition de l'accord de 2016 qui soit correcte, et les chiffrages, quand bien même on aurait tout ça dès jeudi matin, ça recommencera parce que ça ira à l'Interpro, ça recommencera parce que le ministère du Travail devra ensuite valider, ça recommencera parce que il faudra que le ministère de la Culture mette de l'argent pour faire reculer la précarité, pour enlever des arguments au MEDEF et aux autres. Il faut qu'on y aille. On est des fois agacé de voir qu'à certains endroits où la mobilisation semblerait facile et évidente, les gens sont pas dans la lutte. Il ne faut pas se décourager pour autant. On en a vu d'autres, et à chaque fois on a gagné pour une seule et même raison, c'est qu'on y allait tous et on y allait fort. Et vraiment, on est quand même un nombre conséquent dans cette salle. Il faut vraiment relayer ça partout, tout autour de nous. Il n'y a pas de raison qu'on se mette pas tous dans la bagarre.
Pour rajouter quelque chose à ce que dit Philippe, on est tous acteurs du spectacle vivant, ou même il y a des gens de l'annexe 8, des techniciens. Mais à chaque représentation, chaque soir, ceux qui travaillent, de faire une prise de parole, hein, ça marche, ça se fait. Et je pense que dès demain soir, organisez-vous pour faire une prise de parole vis-à-vis du public, pour le sensibiliser de ce qui va nous arriver et de ce qui va arriver aussi au public.
Merci. Moi, je voulais rebondir sur les Gilets jaunes, où on en a pas mal parlé. J'étais vendredi dernier à un club révolutionnaire, comme il s'appelle, à Montreuil. Et c'était très intéressant parce que du coup, il y avait une historienne, Sophie Vaniche, qui revenait justement sur le parallèle entre les Gilets jaunes et les clubs révolutionnaires, et elle nous encourageait à multiplier justement les clubs révolutionnaires, un peu pour faire opposition justement au grand débat national. Et je trouve que c'est une bonne manière peut-être d'y répondre, c'est de dire en fait on refuse ce cadre qu'on nous propose, et ce cadre en fait de créer des clubs qui sont, alors a priori en tout cas dans le cas de Montreuil, basés sur une localité, mais qui sont du coup très divers, en tout cas de ce que j'en ai vu vendredi dernier. Je trouve que c'est une super proposition, et je voudrais rebondir aussi sur la proposition d'aller à Commercy. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est important d'y aller, pas en tant que spectateur, mais en arrivant avec des propositions, en arrivant, eux, ils font tourner des appels sur lesquels c'est des bases de réflexion et d'affirmation, tout simplement. Et je pense que on a une légitimité en tant qu'âgé d'y aller aussi de ce point de vue-là. En tout cas, moi, je considère y aller, et ça serait intéressant d'y réfléchir tous et tout ensemble. Et voilà.
Oui, j'étais pas au courant que la CGT avait dit qu'elle n'irait pas au grand débat. Je l'en félicite. Je pense qu'effectivement, on n'a rien à foutre là-dedans. Mais après, la question, c'est de savoir aussi justement comment on convainc les gens qui sont autour de nous de ne pas y aller. Et c'était plus finalement aussi dans ce sens-là que je posais la question. Ne pas y aller, c'est une très bonne chose. Mais au moment où ça va se tenir, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois qu'il va falloir aller devant les portes où ça se tiendra pour aller discuter avec les gens, peut-être avoir une petite communication en main, un tract, quelque chose pour leur au moins qu'ils aient un autre son de cloche, qu'ils puissent comparer, voilà, ah bah oui, tiens, j'avais décidé d'y aller, mais est-ce que finalement c'est une si bonne idée que ça? Et puis que, dans le même temps, alors, à voir avec les clubs révolutionnaires s'il y a déjà un certain nombre de choses qui se mettent en place, mais proposer, dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, qu'il y ait un contre-débat ailleurs, un contre-débat populaire, qui là se fait sans le vis-à-vis qui nous est proposé, et puis sur les bases qui sont les nôtres, quoi. En tout cas, voilà, la question que je me posais, c'était plus quelle réponse on donne à ça, quelle alternative on donne à ça, et tant mieux s'il y a déjà un certain nombre de choses qui se mettent en place.
Bon, juste à la question tout à l'heure là sur plan pauvreté, enfin sur RSA, CMU, ANCO. Oui, il y a un truc qui s'appelle le plan pauvreté qui a été annoncé cet automne. Avec un truc force communication pour dire qu'on allait mettre 8 milliards jusqu'à la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2 milliards par an. Voilà, juste que quand on fait les comptes, ça veut dire qu'ils vont encore baisser. Il y a un plan, il y a un rapport remis au Premier ministre début juillet dont on n'a pas eu la teneur. Il y a juste un journaliste du Monde qui a réussi à le lire apparemment, mais qui ne l'a pas transmis, mais qui dit que dedans, il y aurait 3,5 millions de perdants. C'est le rapport de l'inspection, enfin l'IGAS qui dit ça, et qui vise à fusionner les minima sociaux que sont le RSA, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autres, les différents minima qui existent encore, sauf l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS, qui elle est versée par Pôle emploi. Le RSA est versé par les départements ou les CAF, enfin bon, voilà. Et l'ASS, pourquoi est-ce que c'est pas fusionnable facilement? C'est que le RSA, par exemple, sans rentrer dans les détails, c'est en fonction des ressources du foyer. Alors que l'ASS, même si c'est plafonné à partir d'un certain niveau de ressources dans le foyer, c'est individuel, c'est une sorte d'allocation après les fins de droit. Bon, ça fait 10 ans ou moins que les intermittents n'y ont plus le droit parce qu'ils ont changé les règles de l'ASS il y a longtemps. 20 ans, merci, me rappelle Jimmy, parce qu'on a changé les règles de l'ASS et il faut maintenant avoir 5 ans de travail sur les 10 années pour y avoir droit et exclut les périodes de chômage indemnisé. Donc ça fait sortir beaucoup, la plupart des salariés intermittents de nos secteurs. Mais l'ASS, le but, c'est quand même, ça coûte 2,4 milliards en dépenses à l'État via Pôle emploi. Le gouvernement a l'intention, c'est un petit débat qui est passé inaperçu cet été, ou pour l'essentiel, a l'intention de se débarrasser de la dépense de l'ASS, de leur filer l'assurance chômage, en disant, et c'est ça qu'ils appellent une allocation de chômage de longue durée. Mais en fait, ça veut dire, on va supprimer l'ASS, vous allez créer une allocation de chômage de longue durée, et puis vous démerderez pour la financer. Ça veut dire que non seulement il y a les 1,3 milliard par an d'économies, mais il y a aussi les 2,4, 2,5 milliards d'économies sur l'ASS qui ne sont pas inclus dans les deux cadrages, mais il y a un petit mot qui en parle. Voilà. Donc non seulement ça fait que ce serait encore plus de dépenses pour l'assurance chômage dans le même enveloppe, dans les questions d'économie, donc c'est un vrai problème. Ça veut dire que globalement, c'est les chômeurs qui font payer pour l'ASS. Hein, c'est en baisse de droits des chômeurs que ça va se faire. Et puis par ailleurs, dans le plan pauvreté, la fusion des minima sociaux hors ASS, c'est 2 milliards par an sur 8 ans. C'est un plan d'économie dans ce domaine-là. En fait, tout ça, ça sert à faire quoi? Ça sert à une espèce de filet de sécurité minimal. Alors c'est tout sauf le revenu universel, hein. Mais c'est le revenu universel version la droite, où on met un minima, un socle, un truc, et puis le reste, bah c'est une complémentaire que certains peuvent se payer s'ils ont assez travaillé, s'ils ont assez cotisé, s'ils se débrouillent quotidien individuellement. Donc il y a tout un plan derrière, c'est une étape de plus dans la destruction de la protection sociale, comme l'est la suppression de la cotisation salariale pour la transformer en CSG. Il y a tout un truc. Bon, voilà, je ne fais pas trop long là-dessus. Sur un autre point sur lequel il y a eu plusieurs questions, si certains veulent aller à Commercy pour attirer l'attention sur la question de l'assurance chômage, c'est sans doute nécessaire. Après, je suis pas sûr que nous, en tant que CGT, on soit forcément les bienvenus en tant que tels, mais que des membres qui sont là dans l'AG aillent porter l'attention sur cette question-là, comme tu le disais, comme quand tu discutais avec ton gilet jaune marqué des revendications sur l'assurance chômage, c'est évidemment possible. Plus il y aura de monde concerné par ce dossier-là, plus on arrivera à empêcher la baisse de droits des chômeurs au 1er juillet et, par voie de conséquence, les répercussions que ça a sur les intermittents.
Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole vraiment urgentes. Si, Maria.
Oui, ne penses-tu pas quand même que de venir à cette réunion, même que la CGT que vienne, quitte à ce que ce soit un peu houleux, mais qu'on puisse discuter, ça vaut quand même le coup? Parce que c'est, en fait, c'est... Oui, mais l'AG, mais donc... Voilà, l'AG ici, c'est l'invitation, elle vient de la CGT. Il y a des gens de la CGT qui y sont. Donc c'est logique aussi qu'on retrouve des gens de la CGT qui viennent discuter. Et voilà, en sachant que oui, on vient pas récupérer, on vient discuter, on vient accompagner, on vient parce qu'on a des choses en commun, on a des choses à se dire. Et Parce qu'à la fois, il y a c'est cette contradiction de oui, on veut pas des syndicats, on veut pas qu'ils nous récupèrent, voilà, etc. On veut être indépendant, mais en même temps, ils nous aident pas. Regardez-les, ils font rien, etc. Il y a ce discours un peu contradictoire. Et donc, je pense qu'il y a aussi, enfin, la carte à jouer aussi, c'est d'y aller, quitte à voilà, oui, c'est pas forcément très agréable tout le temps, mais avec des choses à dire et à montrer qui donnent envie de faire des choses ensemble.
J'ai réunion avec avant la négo assurance chômage avec les comités de chômeurs CGT, et donc il y a des gens dans différents endroits qui ont déjà des contacts et qui sont même gilets jaunes et qui sont dans différents endroits. Donc Commercy, je pense que là-bas il y a des camarades qui vont pouvoir porter cette parole-là. On va regarder ça. Voilà. C'est sans doute comme ça qu'il faut faire, c'est les convergences au niveau local. Il y a déjà des gens qui sont débarqués de Paris. Je ne suis pas sûr que ce soit la... Voilà. Oui, bon ben, à voir. Bah, regardez. Après, il y a une difficulté, hein. Je ne sais pas comment vous faites, mais discuter avec des gilets jaunes en région parisienne, ce n'est pas simple. Il y en a le samedi qui viennent de loin, mais c'est pas si simple, parce que moi j'habite dans le département le plus pauvre de France, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un seul rond-point occupé avec qui aller discuter, quoi. Révolutionnaire dont je viens d'apprendre l'existence, oui. Alors, pour rappeler les rendez-vous, parce que du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, on vous propose de ne pas forcément faire très tard pour une fois. Et donc, le rendez-vous le plus proche, alors il y a plusieurs rendez-vous. Déjà, il y a un rendez-vous pour ceux qui veulent tracter, il n'y a pas besoin d'être très nombreux. On viendra tracter au Pôle emploi de Croix-Nivert à 9h mercredi matin. Guylain est parti, mais voilà, ça c'est déjà un rendez-vous. On va prendre quelques camarades qui seront là. Donc là, c'est possible d'y être, on croise des collègues. Puis si on est plus nombreux, il faut aller faire d'autres pôles emploi. Hein. Il y a un pôle emploi à Brancion qui est l'organisation des artistes, donc on aura des tracts là. Il y a un rendez-vous, donc le plus important, massif, 9h30, vraiment 9h30, le 17, donc métro Iéna, voilà, sortie du métro, place Iéna, devant le CESE. Voilà, il y aura peut-être des poulets, mais il y aura certainement des poulets, hein, c'est sûr, c'est un bâtiment de la République et autres, mais on sera facile à trouver. Et donc ça c'est même pour une demi-heure. Donc ça c'est le rendez-vous du 17. Nouvelle AG ici, de toute façon lundi soir, le 21 au soir, mais d'ici le 17 on va voir quel rendez-vous on donne pour le 21 dans la journée, puisque la négociation elle est convoquée le matin. Bon, voilà, alors normalement c'est pas des réunions longues puisqu'on n'a rien à négocier, sauf qu'on discute de ce qu'on n'a rien à négocier, mais bon, donc ça prend déjà voilà, ça prend un peu de temps. Et puis le 22, il y a une négo au MEDEF. Je pense que là aussi, pour l'instant, on n'a pas encore fixé de rendez-vous, mais il y aura des... Ça, c'est l'après-midi. Nous aurons l'occasion d'avoir à nous exprimer. Voilà, pour l'instant, puisque les préavis de grève sont 17, 21, 22. De quoi 19 ? 19, alors on a appelé... Pour ce qui nous concerne, on attend de savoir, pour ce qui est de la région parisienne, s'il y a un rendez-vous de l'UDCGT de Paris, comme il y a eu samedi dernier. Et la dernière fois, ils ont appelé un peu tard. Ça hésite beaucoup. Hein. On est d'accord que ça interpelle la CGT, ce qui se passe. Donc je pense qu'on appellera, on va voir, on décidera en fonction de l'appel du rendez-vous qui est donné par l'UD de Paris pour ce qui est de Paris. Et puis, il y a différents rendez-vous à différents endroits. Donc les questions vont se poser. Mais bien évidemment, il faut qu'on aille au contact avec nos revendications sur l'assurance chômage, comme on l'a dit tout à l'heure. À chaque occasion où c'est possible.
Bonne soirée. Ah oui, Marion.
Ouais, nos revendications sur l'assurance chômage et, comme tu disais, sur les minima sociaux, je pense que c'est important de lier les deux parce que on parle beaucoup, ils parlent beaucoup de SMIC au sein des gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a aussi une défiance par rapport aux questions de chômage, par rapport aux questions de minima sociaux. Et moi, samedi, je discutais justement, et à un moment donné, la compréhension que les minima sociaux, c'est dans les 400 euros, je crois, et que le seuil de pauvreté, c'est 950. Et donc, c'est pas logique. Voilà, rien que ça. Et voilà, que la CMUC, oui, c'est un droit, mais finalement, en pratique, on voit que les rendez-vous sont annulés, c'est plus de 6 mois d'attente, etc., etc. Je pense que la question des minima sociaux, c'est important de la mettre en lien avec l'assurance chômage. Voilà.
Bonsoir. Il avait été demandé si les négociations pouvaient être filmées et je voulais savoir où ça en était.
les négociations, il faut avoir l'accord de tout le monde et les négociations ne sont pas filmées. Donc, ce serait... Comment ? C'est-à-dire que de l'essayer et de le faire en douce, c'est la réunion s'arrête. Donc, voilà, on le sait, c'est une question, hein. Alors on enregistre, on peut faire des enregistrements et après les retranscrire, mais évidemment on a eu un refus, que ce soit dans le champ spectacle ou évidemment dans le champ de interpro. Mais bon, voilà, en 2014-2016, quand on tweetait pendant les négociations, on se faisait engueuler. Quand on file les documents à la presse pendant la négociation, on se fait engueuler. Alors, je peux vous dire qu'on gueule aussi tout aussi fort en leur disant ouais. Et alors, nous, on met au courant des personnes. Mais parfois, on se fait engueuler, pas seulement par le MEDEF, hein, mais par la CFDT qui dit attention, la loyauté des négociations. Alors, on leur dit bah oui, la loyauté des négociations, déjà, ça ferait faire en sorte que les négociations aient lieu ailleurs qu'au MEDEF pour ce qui est de l'interpro. Hein. Déjà, la négociation dans le champ du spectacle, elle n'a pas lieu dans la chambre patronale. D'ailleurs, ils n'ont pas la place. Mais bon. Donc voilà.
Oui, je voulais dire un truc en réponse tout à l'heure à ce que quelqu'un a dit là par rapport à l'appel à la grève. Quand on est de passage dans un théâtre, ça paraît inconcevable que ce soit une équipe juste de passage qui appelle à la grève. Enfin, ça, c'est évident. Donc là, il y a quand même un vrai problème en ce moment. Je trouve, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'organisation. Hein, c'est pas un reproche comme ça, mais en fait, j'ai l'impression que les endroits où on passe, où il y a pourtant parfois des délégués, des responsables CGT, des délégués, pardon, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'appel, ne serait-ce qu'à discuter. Donc, est-ce que ça rejoint un problème uniquement d'organisation, comme effectivement, par exemple, moi, la réunion de cet AG, je n'ai trouvé la convocation de l'AG sur le site de la CIP, je ne l'ai pas trouvé sur le... Donc, là, il y a quand même il y a un truc qui fait un peu flipper. Et effectivement, quand je vous entends dire ben, on ne va pas appeler à une grève longue, et voilà. Bon, le 18 décembre, il y avait un appel à grève illimitée. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, c'est facile peut-être de dire ça comme ça, voilà, je sais, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le dire non plus, quoi. Je vous le dis.
Non, mais on n'a pas caché nos difficultés à convaincre, y compris nos adhérents, de faire grève. Sauf que, en l'occurrence, quand on demande aux permanents de faire grève, c'est des grèves de solidarité. Et ça a été le cas à l'Odéon, par exemple, en décembre. Ça a souvent été le cas à Chaillot, en Anneco. Mais il y a aussi, il faut se dire les choses clairement, des permanents qui disent « Bon, nous, on fait grève à chaque fois. Ils sont où les intermittents qui sont les premiers concernés ?» Donc c'est un peu « Tout le monde s'observe ». Donc cette question-là... Il ne suffit pas d'un appel, en l'occurrence le préavis de grève illimitée qu'on a déposé au 18 décembre, c'est un préavis de grève illimitée parce que notamment des ensembles de personnes doivent être couverts par des préavis dans tous les théâtres publics comme à la télévision ou à la radio. Il faut que tu aies au moins 5 jours de préavis, sinon la grève n'est même pas légale. La personne peut être licenciée pour faire grève s'il n'y a pas eu un préavis déposé à temps. Donc c'est cette question-là, il y a les questions de préavis, d'appel, et puis de convaincre un certain nombre de grévistes de s'y mettre, et souvent des gens qui ont souvent fait grève. Donc il y a plein de boulot encore à faire, mais bon, voilà, on est en train de monter, il y a des réunions, on essaie de les susciter. Rémi, qui a parlé tout à l'heure, est en contact avec les délégués dans les théâtres en question pour leur dire, bon, voilà, quand est-ce que vous faites une réunion pour en parler, et puis d'essayer d'agréger, par exemple, des revendications qui sont pas liées au sujet intermittent du spectacle, parce que les personnes ne sont pas directement concernés, mais il y a des revendications sur les salaires en ce moment, en particulier sur l'augmentation du SMIC, qui tout le monde n'est pas au SMIC heureusement, mais enfin tous ceux qui sont concernés, et c'est aussi ça qui est en débat. Et puis du côté CGT confédéral, l'appel à une grève qui soit la plus large possible et qui deviendrait générale et autres est en discussion, mais bon voilà, on l'a vu le 14 décembre, il y a eu un appel à la grève. On était seul dans la CGT dans la rue, et même quand on met à peu près autant de monde que, parce que sur les manifs loi travail ou autres ordonnances, il y avait même plus de monde que certains jours des gilets jaunes. Mais bon, voilà, on dit allez, c'est encore les mêmes de la CGT qui viennent se mobiliser, donc il y a quelque chose à trouver. Ça nous interroge, hein, sur comment on fait. Bon, en l'occurrence, là, il y a le feu dans la maison sur le sujet. On dépose les préavis de grève et on va tout faire pour qu'il y ait le maximum de gens qui soient en grève le 17, le 21, le 22. Je comprends l'interrogation de la personne qui est partie. On n'a pas eu le temps de lui répondre. Mais c'est... Voilà. C'est, encore une fois, ça se construit, quoi. Et c'est ce qu'on fait toute la semaine d'ici le 17, quoi.
Non, j'aimerais rebondir sur justement l'histoire de l'appel à la grève, sur le fait que dans une maison, les permanents ont 5 jours pour pouvoir manifester leur droit de grève. Comment un intermittent, qui est de passage, peut avoir la possibilité d'exercer son droit de grève, sachant qu'il a ces fameux 5 jours? Comment ça se passe exactement?
Ce qui se passe, c'est que l'organisation syndicale doit déposer un préavis de grève 5 jours francs avant. Et là, les salariés sont couverts s'ils se mettent en grève, qu'ils soient permanents ou intermittents, même si c'est leur seul jour de travail dans la maison ce jour-là. Voilà. Donc c'est à notre responsabilité d'avoir déposé les préavis de grève, ce que nous avons fait pour 17, 21 et 22. Donc toute personne qui travaille dans un des théâtres nationaux soumis à préavis de grève est couvert par le préavis de grève le 17, le 21 et le 22. Dans les autres lieux, il y a un préavis de grève à France Télévisions, donc voilà, ça a été dit, une question sur Radio France, mais les autres endroits où quelqu'un veut se mettre en grève, il n'y a pas besoin de préavis. Les préavis sont nécessaires que dans les théâtres publics, dans les endroits publics, quoi.
Oui, donc ça veut dire que si on est employé par ce théâtre et pas par une compagnie qui va être employée par ce théâtre. Donc par exemple, si la compagnie paye l'intermittent ne peut pas faire grève s'il a le droit.
Il n'a même pas besoin de préavis. C'est-à-dire que lui, son employeur, c'est ceux qui sont employés par un théâtre public dans une entreprise qui est soumise à préavis. Si tu es embauché par une petite compagnie qui joue à Chaillot, enfin une petite ou une grande, enfin une compagnie qui joue à Chaillot, si ton employeur, c'est la compagnie, ta compagnie, c'est une compagnie de droit privé, elle n'est pas soumise à préavis. Et il y a une, deux personnes qui disent « nous, on est en grève, on ne joue pas », ils sont couverts par l'appel à la grève et ils n'ont pas besoin de préavis. Oui, mais de toute façon, par ailleurs, Angeline me rappelle que quand on envoie les préavis, on l'envoie à toutes les chambres patronales du secteur. Donc le Syndéac, bien sûr, le SMSP, le syndicat des scènes publiques, le SNES, les tourneurs privés, enfin, il y en a, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, de toute façon, ils ont reçu. Donc, ils sont prévenus de l'appel à la grève. Ils ont reçu le préavis, même s'ils ne sont pas soumis à préavis. Donc, toute personne, là, pour le 17... en mesure d'être couverte.
Même dans les productions du visuel, on est bien d'accord?
Absolument.
Voilà.
Ça veut dire que... expliquer ce que c'est qu'être couvert par le préavis ou par l'appel à la grève. Je répète, ceux qui sont dans les entreprises soumises à préavis obligatoire, donc les théâtres publics, l'audiovisuel public, et voilà, en gros, c'est tout, dans notre secteur, tout cela... comme à la SNCF, c'est même encore pire dans les transports, pour que qu'on ne risque pas un licenciement en cas de grève, il faut qu'une organisation syndicale ait déposé un préavis. Donc, c'est fait. Tous les autres, le préavis de grève est un... On répond... D'ailleurs, on peut même décider de se mettre en grève sur une revendication locale. C'est un droit de grève individuel inscrit dans la Constitution. Ils n'ont pas encore réussi à le faire changer. Et donc ce droit de grève, ça veut dire que toute personne qui se met en grève ne peut pas être licenciée pour fait de grève s'il y a un appel à la grève dans sa boîte. Voilà, il y a un petit vadémécum, on va le ressortir, on en a parlé là, qui avait été fait par un de nos syndicats sur c'est quoi la grève et comment ça fonctionne.
Oui, en ce qui concerne la production audiovisuelle et cinéma, on a un vadémécum et on avait expliqué que dans la production audiovisuelle et cinéma, si vous êtes sur un plateau, si sur un tournage, le plus simple, ça serait la veille de faire un vote à bulletin secret, évidemment, pour savoir si... Parce qu'on peut blacklister une personne, on ne peut pas blacklister 30, d'accord? Donc le vote à bulletin secret est important. Vous prévenez la prod à ce moment-là, et c'est réglé. Vous êtes individuellement, par exemple, chef monteur, ou... Alors là, tout seul dans votre coin, ça devient plus tricky. Soit, clairement, il faut être honnête, soit vous avez parfaitement le droit de faire grève, ok? Alors là, il faut vous déclarer la veille, c'est pareil. Mais l'idée, c'est que vous ne mettez pas en danger. Donc, du coup, soit vous avez des bons rapports avec la prod et c'est jouable. Et d'autre part, sachez aussi, par exemple, il y a plein de copains qui nous ont appelés puisqu'il y a une manif le 17 devant le CESE, avant peut-être un départ en action, etc. On est en train de voir ça, etc. Mais vous pouvez aussi déclarer des débrayages. Les débrayages de 4 heures, par exemple, vous commencez à 10 heures le matin en prod et vous débrayez entre 10 heures et 13 heures et vous reprenez à 15 heures, c'est quelque chose d'envisageable, vous voyez, et souvent ça passe mieux. Si vous, je parle des gens qui ne sont pas en tournage ou en plateau, où ils peuvent jouer collectif. Voilà. C'est une précision que je donne parce qu'on a eu beaucoup d'appels de gens qui sont en post-prod, qui sont tout seuls, isolés dans une salle de montage, les monteurs et même les mecs qui font des talonnages, effectivement. Mais je sais qu'à Atlantis, par exemple, il y a beaucoup de gars qui ont décidé collectivement, alors qu'ils étaient sur des prods différentes, de s'organiser pour partir ensemble à la dernière manif. Voilà. Et ce que je propose, c'est que effectivement, collectivement, dans tous les lieux où il y a de la post-prod regroupée, ou des choses comme ça, vous puissiez vous organiser de cette façon-là. C'est beaucoup plus facile pour vous de vous organiser comme ça. La notion de débrayage est quelque chose que vous pouvez utiliser. Puisque la grève, elle sert à une chose, mais elle sert aussi à faire quelque chose. Voilà.
Merci Philippe. Maintenant, cette fois-ci, on se voit jeudi matin à 9h30. Bonne soirée.